Aujourd'hui, c'est dimanche, nous sommes le 6 octobre. Soyez les bienvenus. Voici le journal de Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Interruption totale des transports en commun hier à Marseille. Contrôleurs, chauffeurs ont cessé le travail. Après une nouvelle agression de l'un d'entre eux, le trafic a repris ce matin. Comment le tueur de la préfecture de police a-t-il pu travailler dans l'un des secteurs les plus sensibles, celui du renseignement? Nous verrons comment sont données les procédures d'habilitation. Ils ont occupé toute la nuit un grand centre commercial parisien. Le mouvement écolo Extinction Rébellion lance une semaine d'actions de désobéissance civile. Législative au Kosovo, un scrutin très attendu par une société minée par la pauvreté. Et puis quand l'art contemporain descend dans la rue, France Inter a passé une nuit blanche à Paris.
Les invités de cette matinale à 7h50, Patricia Martin, vous recevrez
Marie-Laure Delorme pour un livre intitulé « Parce que c'était lui, parce que c'était moi » de l'amitié en politique.
Et puis à partir de 8h20, notre invité, le rappeur Oxmo Puccino pour son nouvel album, c'est le 7e en studio, La Nuit du Réveil. On parlera aussi de ses 20 ans de carrière.
France Inter.
L'actualité donc à Marseille, Bernadette, le trafic des bus, métro et tram a repris ce matin.
Après une journée totale d'interruptions, hier, chauffeurs et contrôleurs ont cessé le travail après l'agression d'un contrôleur frappé par un homme cagoulé, armé. Il a été hospitalisé. La veille, un chauffeur était lui aussi agressé. Claire Leys, vous avez rencontré des agents qui n'en peuvent plus.
Après le choc de la nouvelle, c'est la colère qui monte au dépôt Saint-Pierre. Zora est conductrice à Marseille depuis 1999 et dans son bus, elle a vu l'insécurité augmenter d'année en année.
J'en ai la nausée parce qu'aujourd'hui, c'est au sein du dépôt qu'on est victime. On devrait être beaucoup plus à l'aise quand on vient de travailler, c'est-à-dire moins la boule au ventre. Pour un oui, pour un non, avec tous les travaux qui sont enclenchés dans la ville, nous subissons énormément. Même avec les caméras, ça ne les empêche pas. Donc souvent, on prend sur nous. Et les gens sont à fleur de peau.
Des insultes, des menaces. Son collègue Hervé en a reçu beaucoup. Face aux situations compliquées, il se sent abandonné.
Pas plus tard que ce matin, j'ai pris un jeune qui avait l'arcade sourcilière ouverte et le menton ouvert. Rien qu'à ce niveau-là, on est toujours seul.
Zora acquiesce, les agents doivent être épaulés davantage parce qu'il y a urgence.
Garder sur soi tout ça, ça pousse à des suicides, ça pousse à des démissions, ça pousse à des dépressions. C'est un métier qui était difficile, mais qui devient de plus en plus difficile.
Après l'agression de leurs collègues, Zora et les autres demandent des mesures de protection, à commencer par des maîtres chiens à l'abord des dépôts.
Et donc le trafic a repris ce matin. À Paris, toute la nuit, ils ont occupé l'un des plus grands centres commerciaux de la capitale. Italie 2, 130 boutiques et restaurants, temple de la surconsommation pour ces militants écologistes d'Extinction Rébellion qui prônent la désobéissance civile. Ils avaient investi, Julie Paco, les lieux hier dans la journée.
Par petits groupes, les militants investissent le hall du centre commercial. La priorité, barricader les accès avec les moyens du bord, palettes en bois ou mobilier trouvés sur place.
On a fermé, on a mis des trucs pour coincer et on va voir ce que les forces de l'ordre font.
Tandis que d'autres militants se chargent d'expliquer l'action au public et aux salariés des boutiques.
C'est bien de manifester, mais ils empêchent tout le monde de travailler.
Plus ou moins réceptifs.
Je trouve ça pas normal, ils cassent tout.
Juste me permettre, on n'a aucune dégradation matérielle pour le moment. On est un groupe non violent.
Le dialogue, la non-violence, des principes qui régissent le fonctionnement d'Extinction Rébellion.
L'objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience au maximum de gens en fait, que notre modèle, en fait, notre logiciel, il a changé. Moi, je ne suis pas contre le capitalisme en tant que tel. C'est le capitalisme actuel n'est plus compatible avec la protection de l'environnement et avec l'avenir de notre planète.
Et au milieu des manifestants écolos, des membres du collectif Vérité pour Adama, mais aussi quelques gilets jaunes.
Cette occupation aussi, pour nous, c'est l'idée qu'enfin, il faudrait que tous ces éléments convergent pour que, enfin, le pouvoir peut-être réagisse un tout petit peu.
Alors, quand les forces de l'ordre tentent d'intervenir, les militants se regroupent au sol, s'agrippent les uns aux autres, tout en gardant leur passivité.
Et ils ont quitté donc le centre commercial très tôt ce matin, dans le calme. Ils annoncent pour la semaine prochaine de nouvelles actions de désobéissance civile. Liberté, égalité, paternité, c'est avec ce slogan que les opposants à la PMA pour toutes seront dans la rue ce dimanche pour le défilé cet après-midi à Paris. Les organisateurs espèrent 100 000 manifestants.
Après l'attentat à la préfecture de police de Paris, le Premier ministre annonce deux missions.
Pour mieux détecter d'éventuels signes de radicalisation, des agents chargés de la lutte antiterroriste. Michael Harpon, qui a tué 4 de ses collègues, en faisait partie. L'enquête a montré que les signes de sa radicalisation n'avaient pas suffisamment donné l'alerte. Autre question, comment a-t-il pu travailler dans le service qui, justement, est celui chargé de détecter les éléments radicaux? Il possédait même une habilitation secret défense. Alors, comment est-elle donnée, Mathieu Mandoloni?
C'est une procédure très lourde lors de laquelle une enquête administrative est opérée par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Pour cela est effectué ce qu'on appelle un criblage, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une enquête de personnalité et une enquête d'entourage au cours de laquelle la famille, les amis, parfois les voisins peuvent être interrogés. Sont également consultés l'ensemble des fichiers de renseignement possédés par les différents services. On croise les informations, ce qui permet de savoir par exemple si une personne a des antécédents judiciaires, si elle est recherchée, si elle a commis une infraction à caractère terroriste et bien sûr si elle s'est radicalisée. Comment Michael Harpon a-t-il pu dès lors conserver son habilitation? Et bien possiblement parce que cette enquête n'est réactualisée que tous les 5 ou 7 ans. Certains jugent ce délai trop long, mais d'autres rappellent qu'en raison de la lourdeur de la procédure et des moyens alloués, il est très difficile, voire impossible, de le raccourcir.
Sa femme est toujours en garde à vue. Les enquêteurs s'interrogent aussi sur 2 fréquentations du terroriste, 2 hommes actifs dans la mouvance islamiste. Nous allons maintenant au Kosovo. C'est le plus jeune pays de Europe, moyenne d'âge 29 ans, une génération qui attend beaucoup des législatives aujourd'hui, Louis Cellier, tant la société est minée par la pauvreté et la corruption.
Un chômage à plus de 30%, une personne sur 6 sous le seuil de pauvreté, un quart de la population sans accès à l'eau potable. 11 ans après l'indépendance, l'heure n'est plus à la fête au Kosovo. Originaire du sud du pays, Fisnek finit ses études d'art à Pristina.
Il faudrait aller voter pour obtenir ce changement qu'on attend depuis tant d'années. 20 ans qu'il tarde et on a toujours les mêmes qui promettent le changement depuis la fin de la guerre. Et c'est seulement mauvais, mauvais.
Assise sur un banc pour sa pause déjeuner, Lulieta survit grâce à un maigre salaire de femme de ménage. À 42 ans, elle ne croit plus au changement.
À part ceux qui travaillent pour le gouvernement ou ceux qui ont un business, tout le monde vit dans la misère. Nous, on pense que jamais le Kosovo n'a fonctionné comme un État.
La lutte contre la corruption, tous les partis politiques en ont fait leur principal thème de campagne. Redonner de l'espoir aux Kosovars ne sera pas chose facile. Ces 5 dernières années, près de 10% de la population a préféré quitter le pays, faute de perspective.
Reportage donc au Kosovo de Louis Cellier pour ses législatives aujourd'hui. À Paris, cette nuit, l'art contemporain envahit les rues. Paris a accueilli la 18e Nuit Blanche. Plus de 1000 artistes présents et une nouveauté cette année, une parade d'œuvres monumentales. Bastien Munch.
Dès le lancement de la parade, les spectateurs ont les yeux tournés vers le ciel pour admirer les gigantesques chevaux gonflables de la compagnie des plasticiens volants. Les œuvres d'art s'enchaînent au son d'orchestre venu du monde entier.
L'intéressant de cette œuvre, enfin, on a le reflet de l'immeuble, c'est vraiment intéressant.
Là, ce sont les grands miroirs inclinés de l'artiste Daniel Buren. Stéphane est venu avec sa fille de 12 ans, fan d'art contemporain.
Les œuvres d'art qui sortent dans la rue, c'est ce mélange entre généralement l'art contemporain qui est toujours taxé un petit peu peut-être d'élitisme et puis ce côté parade qui est effectivement festif et c'est ce mélange qui est vraiment très intéressant.
Car quand l'art contemporain descend dans la rue à la rencontre des gens, cela change tout pour Christine, venue avec toute sa famille.
Les droits d'entrée dans les musées c'est quand même relativement élevé, donc dès qu'il y a des opportunités de faire ça sans que ça coûte trop d'argent, bah on y va.
Ces deux filles ont les yeux écarquillés au passage du char de Vivien Roubaud qui projette de la barbe à papa dans le ciel parisien. Faire rêver les spectateurs, c'est aussi ce que souhaite Annette Messager, qui a créé l'œuvre de la Nuit Blanche des animaux.
Si ça ne touche qu'une personne, que ça éveille vers d'autres horizons, que ça lui change de son quotidien, et pourquoi pas d'avoir envie d'être artiste, comédien.
Les 12 chars se sont ensuite dispersés dans toute la métropole pour y être admirés jusqu'au bout de la nuit.
Jusqu'au bout de la nuit.
Et j'ai encore un mot à dire. Hein,
dites-moi.
Tant qu'à faire.
Dites-nous.
Une autre forme d'art, le rugby au Mondial, le 15 de France, qui est tout près des quarts de finale. Ça vaut le coup d'en parler quand même. France-Tonga, c'est à 9h45, heure française.
L'art de l'Ovalie, dans le journal de Bernadette Chamonaz. Merci Bernadette. Le temps.